Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung fu. Prouve-le-moi.
Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe.
Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel hors-série de High Kick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut, et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode qui est très particulier, puisque nous recevons une nouvelle fois un invité. Alors, comment vas-tu mon cher Seb ?
Eh ben salut Jazz, ben, ça va super. Alors à l'accoutumée, dans les épisodes classiques, oui, il faut le dire aux auditeurs, pas tout le temps dans les hors-séries. Hein, parce que tu vas être un petit peu le maître à penser et le maître à créer sur ce format-là.
Le père Fouras.
Le père Fouras, c'est ça.
Alors, avant de commencer de présenter notre invité, on va répéter un peu le concept. Donc, notre invité ici présent va nous parler de l'art martial qu'il a pratiqué. Nous reviendrons sur le commencement, pourquoi il s'est dirigé vers ce sport, les valeurs de cet art martial, et puis quelques anecdotes. Alors aujourd'hui, nous recevons la légende du podcast français. Hein, quand le monde va mal, on fait appel à lui pour distribuer de la joie et de la bonne humeur. Il connaît tous les combos de Street Fighter, et la légende veut qu'il ait voulu brûler Universal après avoir vu le film avec JCVD. Nous sommes très heureux d'accueillir le seul et l'unique TMDJC.
Bonjour, comment allez-vous?
Salut,
ça va et toi?
Tu sais que ça va très très bien. J'essaye de ne pas réagir à chaque fois que tu dis Seb parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai un prénom.
Oui, on a le même prénom, Sébastien. C'est le bordel, c'est ce que j'ai dit à Jazz avant. Je dis comment on fait ?
On a le même prénom.
Ah putain, c'est un bon prénom.
Du coup, je ne réagis pas. Je réagirai à TMDJC. Il y a une anecdote que j'ai déjà racontée, je crois, dans un autre podcast, mais je la replace ici. Il y a quelques années, j'officiais avec d'autres membres de Bagropoint en tant qu'intervenant à la World Game Cup. Et je suis en train de discuter avec un auditeur qui est en train, vraiment très gentiment, de me faire beaucoup de compliments sur ce qu'on fait. Alors, je bois ses paroles, je suis content, tout ça. Puis derrière, il y a Nathan qui arrive et qui me dit « Seb, on t'attend sur scène ». Et là, le mec percute que j'ai un prénom. Et là, il me regarde et il a cette phrase magique, il fait « Ah, mais t'as un prénom ». Et c'était mignon. J'ai trouvé ça mignon. Parce que je lui dis « Mais oui, mais mes parents m'ont pas appelé TMDJC, ils m'ont appelé Sébastien ». Voilà.
Voilà. Accessoirement un beau prénom, je tiens à le redire.
Ouais. Oui, je trouve que tu as un très beau prénom, je suis d'accord
aussi,
avec toi.
Toi aussi.
Merci beaucoup.
Ah, alors du coup, pour commencer, en fait, tu as fait pas mal de sports de combat.
Oui.
Mais ce soir, nous allons nous focaliser sur un en particulier, et ça tombe bien, puisque Seb connaît aussi ce sport.
Un peu.
Comme quoi.
Mais voilà, je suis intimement convaincu qu'on n'a pas pratiqué le même, et je suis presque certain de... Mais ça se trouve, il va me dire, non, tu t'es trompé. Mais toi, tu serais pas parti dans le Shotokan ou un truc comme ça ?
Peut-être bien.
Peut-être bien.
Tout à fait.
Et oui, et nous n'avons pas pratiqué le même parce que je faisais du Yosekambudo. Du Yosekambudo, ça j'ai fait avancer. J'ai fait du Wadoryu au niveau du karaté.
T'étais un monsieur Wadoryu, d'accord.
J'étais un monsieur Wadoryu.
Mais
ouais.
Si tu veux, alors pour la petite anecdote assez rigolote, je me suis arrêté, on va le dire tout de suite, moi je me suis arrêté à la ceinture marron. J'ai été blessé l'année où je devais passer ma noire. Et du coup, après, bon, la vie faisant que j'ai arrêté et que je suis passé sur autre chose. Hein, et là, j'ai pris comme projet, je me suis mis un projet avant mes 40 ans de passer ma noire pour inventer un peu comme dans les jeux vidéo, d'atteindre ce achievement et le terminer. Et il y a un club que je ne veux pas aller dans ma région. Et le seul club où je peux aller, c'est un club de Wadoryu. Donc, je vais très certainement reprendre l'année prochaine dans un club de Wadoryu. Mais bon, c'est pas grave, il paraît que ça fait quand même le taf.
L'avantage que tu vas avoir, c'est que, alors la plupart des clubs de Wadoryu, c'est que les positions sont très légèrement plus hautes,
oh oui,
ce qui fait que ça peut être le. Alors ça dépend des clubs, hein, parce que t'as des clubs. C'est pour ça que je dis très légère. En moyenne, la position est légèrement plus haute. Et surtout, en fait, il y a un côté moins dans les mouvements, en fait, moins figé que sur les shotokans.
Ouais, c'est moins tradit, clairement.
Je dirais pas moins tradi parce que ça dépend ce que tu, ça dépend en fait
dans
le sens tradition si tu l'imagines comme on peut le voir dans les films japonais, oui, mais les gens qui pratiquent le Wadoryu au Japon te diraient par exemple qu'en fait il y a eu beaucoup de styles différents qui se sont mariés qui ont été inspirants les uns pour les autres. Dire que ce serait traditionnel, ce serait peut-être galvaudé par rapport à
c'est un peu réducteur, j'avoue.
mais ça ressemble plus, tu vois, c'est un peu comme si on dit, ah oui, mais les gens qui parlent japonais, c'est l'accent de Tokyo. Bah non, il n'y a évidemment pas que l'accent de Tokyo, mais c'est celui qu'on entend le plus, comme on entend l'accent parisien quand tu écoutes les médias traditionnels. Et il y a évidemment beaucoup plus de choses en France, c'est plus sur cet aspect-là que je disais. Mais tu trouveras ton truc, hein. Il y a des clubs de What Are You qui sont vraiment très très bien.
Ouais, après tout ça appartient à la même fédération, donc je pense qu'à mon avis, le prof étant un ancien prof de Shotokan, je pense qu'il y aura moyen que je travaille.
Tout à fait.
Parce que c'est en fait ce qui va compter principalement, c'est les katas qui diffèrent. Après, si on doit parler du comité,
là, par contre,
du Jun comité,
qui diffèrent beaucoup.
Ouais, ouais, bah clairement, hein, ils sont beaucoup plus hauts et puis mais bref. On aura l'occasion d'en discuter.
Mais même le rythme, hein, c'est pas la même chose. Mais là, on a peut-être déjà perdu tous nos auditeurs et c'est pas gentil parce qu'on est parti.
Et on n'a pas utilisé encore les termes japonais. Hein. On va y passer à un moment donné. Hein. Il va falloir. Hein.
On n'a pas parlé du tube de ABBA non plus.
Non plus.
D'accord. Je l'ai passé là non plus, Jazz.
Ouais, there you.
Putain.
Non mais la question que je me... là tu l'as expliqué, mais la question que je me pose c'est est-ce que tu mets dans le chapitrage des petites phrases que les gens peuvent lire en écoutant le podcast qui explique le...
Ils n'utilisent pas le chapitrage et heureusement parce que je pense qu'on perdrait le peu d'auditeurs qu'on a.
Moi qui chapitre tous mes podcasts, je suis très triste. Je suis obligé de vous former, ça va pas du tout.
Alors depuis quand tu fais ce style de karaté ou combien de temps en fait tu en as fait?
J'ai utilisé le mot juste avant, en fait, moi je suis arrivé dans les arts martiaux par le biais du Hoseikan Budo quand j'étais tout gamin. Alors il faut savoir que je faisais partie des enfants qui se faisaient taper dessus, sorte de victime sur pattes. Ah bah voilà, j'ai des signes, des grands signes de parce que auditeur et auditrice, tu ne l'entends pas, mais en fait, nous avons allumé nos webcams et nous voyons, ce qui est très agréable pour enregistrer. Et donc, voilà. J'ai subi, comme beaucoup de gamins, la pression sociale de toutes parts. Et à l'époque, je ne me défendais pas. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, en fait. Quel est le mécanisme dans la tête qui fait que tu te laisses faire alors que ce n'est pas nécessaire?
La peur.
Mais voilà, à l'époque... la peur, évidemment. la peur, elle est, ça, c'est, je ne discute même pas. Mais tu sais, il y a d'autres trucs. Il y a des moments où tu te dis, si je fais ça, je risque de faire mal. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Ce n'est pas juste un truc unique. C'est plein d'émotions qui sont mélangées. C'est la tension aussi. Pourquoi des fois tu te mets à trembler ou des trucs comme ça? Enfin, qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup t'es plus maître de toi et tu réagis pas comme tu voudrais réagir? Alors que moi j'étais nourri de Goldorak et d'autres choses et j'aurais rêvé de pouvoir réagir comme Actarus. Qui lui-même, d'ailleurs, dans un épisode, prend un pain et décide de prendre un pain sans réagir. Et Mizard ne comprend pas, mais ceux qui ont déjà vu Goldorak connaissent cette anecdote. Je ferme ce chapitre. Et donc, mes parents m'inscrivent au Hoseikan Budo en se disant, on va lui apprendre à se défendre. Et puis voilà. Et puis donc, la prof qui m'encadre à l'époque dit à mes parents que je ne suis pas mauvais, que je fais des trucs bien. Et je me fais toujours quand même taper dessus après à l'école. Et ils ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, ça marche vachement bien dans le club. Pourquoi tu ne l'utilises pas à l'extérieur? Mais moi, le club, c'est un peu comme, entre guillemets, quand tu fais du théâtre. Tu peux être très bon dans le théâtre et tout d'un coup, tu te retrouves à l'extérieur et tu ne vas pas forcément avoir d'éloquence ou avoir de répartie parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a écrit un texte. Pour moi, les arts martiaux, c'était un peu ça.
Il y a dans tatami et le hors tatami.
Voilà, c'est ça. Tu as le dans tatami, le hors tatami. C'est exact, c'est très, très bien formulé. Et quelques années plus tard, à un moment donné où je pense que j'en avais marre d'être une victime, et c'est arrivé de pair avec un truc qui a révolutionné ma vie, à savoir Street Fighter 2. J'ai découvert un personnage, Ryu, que je trouvais absolument exceptionnel. Puis en plus, le mec, il envoyait des kamehameha en criant à Hadoken. Enfin, l'homme parfait, j'ai envie de te dire. Je me suis dit, tiens, est-ce que je me mettrais pas au karaté, tout simplement? Et ça, c'est relativement tard, parce que moi, j'ai commencé le karaté, j'avais 18 ans. Donc, je fais vraiment partie des vieux. La plupart des gens commencent bien, bien avant. Ce qui a été très compliqué pour moi au départ, parce que je suis à peine plus souple qu'un balai. Mais limite, hein, vraiment, on est dans le même truc. Donc, pour se plier, c'est une horreur. Mais j'étais très, très motivé. Et j'ai passé les DAN assez vite, enfin les couleurs assez vite au départ. Et je me suis très vite attaqué à vouloir passer mon premier DAN parce que j'avais une revanche à prendre contre moi-même. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, je pense que j'ai fait de la compétition. C'est arrivé à un moment de ma vie où moi, à chaque fois qu'on me faisait faire de la compète, je n'y allais pas. C'était une question de principe. Et la plupart des clubs, dans tous les trucs que j'ai fait de l'équitation par exemple, il fallait que tu passes des niveaux, il fallait que tu fasses de la compétition. Je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours refusé. Je refusais de me confronter à d'autres personnes. Mais là, c'était moi vis-à-vis de moi. Et je voulais savoir si je serais capable de monter sur un tatami, d'aller affronter quelqu'un qui voulait exactement la même chose que moi. Des gens qui, en plus, sont impressionnants. Parce que quand tu te retrouves en compétition de karaté, les mecs, ils ne sont pas là pour rigoler, en fait. Et tu n'es jamais à l'abri.
Sans jugement aucun, parce que le passé est le passé. Tu étais en quelle catégorie de poids quand tu faisais de la compétition? Parce que c'est ça qui compte dans le karaté.
J'étais dans les 80-90, si je dis pas de bêtises, à l'époque, mais je suis quasiment sûr de ne pas en dire.
On se serait jamais croisé du coup. On aurait pu se croiser, mais.
Ben non, on se serait d'autant pas croisé, suivant l'âge avec lequel tu l'as fait, que j'étais avec les seniors. Et mine de rien, ça peut jouer aussi parce que, par exemple, il y a une année où. Alors, le chiffre va être très rigolo, parce que c'était une compétition nationale, mais spécifiquement Wador You, j'ai terminé 28e, donc il y a une année où j'ai fait 28e de manière nationale, ce qui, pour moi, était exceptionnel, parce que mon nom est dans les classements, les trucs, l'année d'après, quand toute une génération en fait, est devenue senior, mon chiffre, il s'est pété la gueule, mais alors un truc, parce que tous les nouveaux étaient bien meilleurs que tous les seniors qu'il y avait à l'époque. Et mine de rien, en fait, c'est toujours facile de gagner quand tu rencontres des gens qui ont un niveau qui est équivalent ou moins bon que le tien. Après, ça devient plus difficile.
J'étais senior aussi, pour info. Moi, j'ai fait de la compétition en senior. Hein. J'ai jamais fait de junior en compétition. Donc, j'avais une vingtaine d'années quand j'ai fait de la compétition.
Ah bah, on se serait effectivement peut-être pas croisés, mais on aurait pu se croiser.
Ouais.
Du coup, en fait... c'est pour toi, du coup j'aurais aussi la question pour Seb, parce que c'est aussi important, parce que comme c'est deux pratiques différentes, quelles sont les valeurs du coup de ces deux pratiques?
Si je peux me permettre, en fait c'est pas des pratiques différentes, puisqu'on est sur le même art martial en fait, si tu veux, à la base t'as un grand monsieur très ancien que tu vois sur les photos de dojo, qui a créé le style de karaté, et de ce style de karaté là, on en dévié des styles différents. Et ce qui fait qu'il y a eu des... En fait, si tu veux, l'esprit est le même, en fait. Le respect, le côté défense. À la base, c'était des sports de combat qui ont été créés pendant la guerre. Donc, c'était pour apprendre à se défendre contre l'envahisseur, etc., etc. Mais de là, après, si tu veux, on a différents styles qui ont découlé parce que on fait pas le point de telle manière, on fait pas les blocages de telle manière, etc., les coups de pied de telle manière. Donc après, c'est juste une sorte de philosophie de coups et de kata, etc. Mais au final... Je pense, enfin, tu me diras si je me trompe, TNJC, mais.
Non, je suis. C'est pour ça que je ne corrige rien.
On est sur les mêmes valeurs, puisqu'en final, les saluts restent les mêmes, l'entrée sur le tatami aussi. C'est des trucs. C'est du classique, j'ai envie de te dire. Après, il parlait tout à l'heure, je viens du style Shotokan. On est sur des positions qui sont quand même beaucoup plus ancrées au sol. Alors, je vais commencer à utiliser les termes japonais, je suis désolé, mais voilà. On a le Zenkutsu, qui est un peu la position classique. Donc, pour la décrire, c'est la jambe avant fléchie vers l'avant et une jambe légèrement tendue à l'arrière. Bah, nous, on l'a fait en Shotokan. On l'a fait plus basse.
Les auditeurs, hein. C'est la position de Ryu quand il a terminé son Hadoken.
Exactement. Voilà. Et ben, en Shotokan, on est beaucoup plus bas que le Wador Yu. Le Wador Yu, je vais faire la petite guéguerre entre le Shotokan et le Wador Yu. Nous, on a une vraie
tu
position.
Tu peux y aller, j'ai pas de guerre, moi, parce que.
Bien basse.
Les stages que j'ai fait, souvent, quand je faisais des stages à l'extérieur, c'était souvent chez les Shotokan. Donc,
je te charrie.
Mais
on l'a fait, plus basse, en tout cas, en Shotokan qu'en Wador Yu, où ils sont pas debout, mais pas loin. Donc, voilà. C'est plus dans l'esprit.
Non, tu verras que c'est pas le cas. Tu verras que c'est pas le cas, mais je veux juste pas te décevoir, parce que si effectivement tu dis on est par contre effectivement pas aussi penché, dans le sens où en fait sur certaines écoles Shotokan, la jambe avant, le genou, il est presque à 45 degrés,
c'est
alors
ça.
que c'est pas le cas chez les Wador Yu, où en fait on va plutôt être dans 75 degrés en fait au niveau de l'angle du genou.
Mais donc, tu veux que je te fasse une petite confidence, vu qu'on parle de karaté? J'ai toute ma vie pratiqué du Shotokan. Alors moi, pour savoir pour les auditeurs, hein, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et je suis, à l'époque, je suis de l'ancienne génération, mais j'ai 38 ans. Mais à l'époque, il donnait pas. Maintenant, il donne des ceintures noires à 14 ans.
38 ans, espèce de jeune.
Ouais, je sais, désolé. Mais en tout cas, à l'époque, il donnait pas facilement les ceintures. Donc moi, si tu veux, quand j'ai commencé à 6 ans, j'avais le niveau d'une ceinture verte. Mais à l'époque, il m'a mis 3 barrettes sur ma ceinture blanche. Je connaissais mes 3 katas. Donc les 3 premiers katas qu'on apprend en Q, justement, avant d'arriver au niveau noir. Et là, on passe en Dan. Et si tu veux, après, j'ai arrêté, j'ai repris. Et puis, j'ai vraiment avancé dans mes ceintures. À l'âge de 17 ans, où là je suis monté jusqu'à la ceinture marron. Et en fait, j'ai toujours fait là-dedans parce que c'est ce que je connaissais, c'était ce qui était entre guillemets facile pour moi. Mais j'ai plus un esprit de combattant plutôt que de kata. Et c'est vrai que moi j'assimile plutôt le Shotokan très kata, alors que le Water Yu, pour moi, dans mon esprit, et là tu vas me dire si je me trompe, je trouve qu'ils ont plus une philosophie combat. Et du fait de leur position, du fait de leur explosivité, et je trouve que dans la manière, je trouvais qu'en tout cas les meilleurs combattants quand je faisais la compétition, c'était ceux qui venaient du Water Yu. Et avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être dû faire du Water Yu parce que il y a peut-être plus une philosophie combat, assaillant, et etc. Peut-être que je me trompe, mais c'est un peu le ressenti
c'est,
que moi j'avais.
En fait, c'est comment te formuler ? Alors, c'est pareil, ce que je vais dire n'est pas parole d'évangile. Et là on va confronter deux visions de d'être humain, parce qu'en fait, il faudrait faire une étude pour le voir. Mais
ben oui.
pour avoir fait un peu de compétition dans des secteurs différents... S'il y a des styles qui sont clairement plus combat que d'autres, je penserais pas forcément ni au Shotokan ni au Water Yu.
On voit lequel tu parles. Tu penses au Kyokushin.
Qui sont peut-être. Ouais, je pensais plus à ça. Même. Attends, comment il s'appelle celui-là qui a un truc pareil en deux syllabes, ça va me revenir. Pour que les auditeurs, les auditrices le sachent, en fait, le style le plus répandu, c'est le Shotokan, et le Water Yu arrive un peu derrière, et après il y a beaucoup d'autres styles, mais effectivement qui sont plus confidentiels. Mais que ce soit chez les Shotokan et chez les Water Yu, il y a tellement de clubs différents et tellement de philosophies différentes club par club. Là par exemple, moi j'ai pratiqué le Water Yu dans 3 clubs différents, et le club de Gérard Shemama qui est un club qui est vraiment là pour le coup réputé, est effectivement très combat, mais par contre il était aussi ultra rigoureux sur les katas, mais lui ce qu'il voulait c'était l'efficacité, donc il fallait que sur un combat il fallait qu'il y ait un truc qui soit réel, le truc où tu danses un petit peu autour l'adversaire, il dit non, il va te faucher, arrête, voilà. Et d'ailleurs, il n'hésitait pas, et c'était douloureux parfois comme leçon, à te montrer concrètement, il dit non, si tu fais ça, ça va te faire mal, je te montre. Oui, ça fait mal, merci beaucoup, ça va beaucoup mieux. Mais après, j'ai pratiqué dans des clubs Water Yu qui étaient vraiment axés défense, et du coup c'est vrai que quand c'est axé défense, t'as moins ce côté rentre dedans du combat, tu vas pratiquer avec des gens qui rentrent du boulot et qui ont juste pas envie qu'on leur pique leur sac à main, on n'est pas dans les mêmes dans la même philosophie. Donc c'est vrai que j'aurais du mal à dire, enfin à faire un niveau entre le Shotokan et le Water Yu, qui sont pour moi en fait peut-être deux côtés d'une même pièce avec des trucs plus ou moins différents.
Complètement.
Mais je pense que c'est plus lié au club en eux-mêmes souvent aux gens qui ont animé ces clubs qu'au style.
Même au-delà de ça, c'est, je pense, c'est même au niveau des fédérations, au niveau départemental.
Aussi, oui.
Moi, je prends un exemple aussi. Tout bête. Hein. Moi, j'ai fait essentiellement ma carrière de Shotokan en Charente-Maritime. J'ai fait quelques compétitions, quelques combats. Et tu sais que, on va rappeler rapidement pour les auditeurs, la compétition de karaté, si vous voulez, vous avez le droit de taper avec un niveau de puissance relatif, mais normalement, il n'y a pas de limite au niveau du corps, au niveau du buste. Au niveau de la tête, vous pouvez faire des coups maîtrisés. On n'a pas le droit d'avoir d'impact. Il faut que ce soit des coups maîtrisés et souvent ponctués d'un kiai. Le kiai, c'est le fameux cri du combattant. Et tous les coups au niveau des jambes sont interdits. Tout ce qui est en dessous de la ceinture sont interdits. Pourquoi je vous donne cet élément de règle ? Tout simplement parce que en compétition, nous, le point n'était pas validé. À mon époque, on ne prenait pas de points si on tapait trop fort, entre guillemets, ils estimaient que c'était pas maîtrisé au niveau du buste. Ce qui fait que, il y a eu une dérive, notamment chez certains pratiquants de Water Yu. Encore une fois, je jette pas la pierre, c'est mon regard de jeune dévié avec le temps.
Non, après, c'est factuel. Après, c'est factuel. Donc,
qui avait tendance à faire une technique qui était le Yakutsuki. Alors, Yakutsuki, c'est un coup de poing sur vous avez votre jambe d'appui avant qui est penchée, jambe arrière, et c'est en fait vous tapez avec le poing inverse à la jambe d'appui, qui est devant. Je ne sais pas si je l'exprime bien, je ne sais pas si c'est clair.
En fait, pour préciser, en technique de karaté, on peut taper sur la jambe d'appui, enfin avec le poing du côté de la jambe d'appui ou inversé. Et là, on est dans le cas inversé.
Et voilà. Et donc, si vous voulez, en fait, les pratiquants avaient tendance à faire des coups de poing explosifs qui rentraient au niveau du torse et qui touchaient à peine. Et il y a eu cette dérive un petit peu dans cet département où j'étais, c'est que il touchait, il criait, pim, c'était un point. Parce que en karaté, on peut prendre 1, 2 ou 3 points. Et je sais plus à combien il fallait monter, mais je crois que c'est 9 points.
Ouais, enfin, c'est souvent plutôt demi-point, point, 2 points que le.
Mais
que 1 point, 2 points.
Souvent, point, en tout cas, ouais. Parce que tu sais, c'est pas tout le temps impartial, hein. C'est des juges qui estiment que ton point est bon ou pas bon.
Les juges sont humains. Et alors, pour aller dans ton sens d'ailleurs, quand il y a des gens qui viennent très souvent en compète et qui sont très connus ou qui, malheureusement, et c'est pas une critique, qui sont les fils de certains juges, etc. C'est pas une critique, c'est juste
non, c'est
factuel,
réalité.
En fait. Ah ouais. Y a des gens qui gagnent des points plus facilement que d'autres. Ça veut pas dire que ces gens sont moins bons ou meilleurs. Ça veut dire que, malheureusement, comme n'importe quel jugement, c'est pas impartial.
Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, si tu veux, dans cette compétition-là, ces gens-là étaient un peu habitués, si tu veux, à ce type de schéma. Donc, ils touchaient un peu même à l'esprit de l'escrime ou même de cette dérive maintenant qu'on a avec le taekwondo, où c'est que de la touchette. Bah, arrivé en France, parce que moi, j'ai fait une seule fois les championnats de France. Bon, après, c'était facile parce que j'ai pas fait beaucoup de combats pour me qualifier en championnat de France. J'ai dû faire au total, départemental, région, interrégional, j'ai dû faire 4 ou 5 combats au total. Donc,
D'accord, c'est rien
parce que c'était une petite fédération dans laquelle j'étais. Mais j'ai quand même voulu voir ce que c'était aux France. Bon, je suis sorti au premier tour. Parce que j'étais pas assez préparé et puis que j'avais pas assez la niaque, bref, mais ça c'est pas grave. Mais un de mes premiers chocs, c'est qu'un des champions en poids mouche, il était en moins de, alors c'est pas poids mouche, mais il était en moins de 65 kilos, qui était le mec qui survolait toutes les compétitions en départemental régional. Il s'est fait plier en deux au premier tour des championnats de France. Parce que justement, bah il était tellement habitué à faire de la touchette, il a un mec qui arrive en face de lui, il lui est rentré dedans. Il lui a plié en deux, il a fini à aller vomir dans la poubelle, et ça, je suis arrivé au même moment que ce truc-là est arrivé, et c'était terminé. Il a tellement été mis dans un schéma où il était à la touchette, et que dans d'autres fédérations, bah, ils autorisaient un contact un peu plus appuyé, un peu plus lourd, bah, que du coup, il a été surpris au championnat de France. Et ça l'a complètement, il a été défoncé, et au revoir monsieur, rentre chez toi. Donc c'est pour dire que...
Alors, je précise pour les auditeurs et auditrices que dans tous les cas de figure, le coup est maîtrisé. Hein. Je précise parce que même si là on peut donner l'impression que prendre un coup même maîtrisé, bien donné dans l'estomac ou même pas loin du cœur, hein, c'est pas juste douloureux. Hein,
pour préciser pour les auditeurs, c'est qu'il y a c'est pas une patate de vorin qu'on met au niveau du ventre.
Voilà,
ça reste
c'est ça. Le but du jeu, c'est pas de défoncer la personne qui est en face. Ce sont des matchs qui sont techniques et propres, tout à fait. C'est exactement ce que tu dis. C'est pour ça que je me permettais cette petite précision. Mais c'est clair que quand vous mettez votre ceinture, quand vous montez sur le tatami, le mec qui est en face de vous, il est pas là pour vous masser. C'est certain.
Mais c'est pas comme pour essayer de rassurer les auditeurs,
non.
C'est pas comme dans Best of the Best, voilà.
Non.
C'est-à-dire que on n'est pas là pour vous défoncer, quoi. C'est vraiment quand vous faites un sport de combat.
C'est comme tu l'as dit, c'est pas full contact, on n'est pas dans cet esprit-là. Après, rien ne vous empêche effectivement d'aller faire du MMA ou d'autres choses. D'ailleurs, il y a des champions de disciplines qui sont reconnus pour être des disciplines dangereuses. Je pense notamment au champion de France de Muay Thai qui à l'époque s'est fait plier. Je sais plus, c'était par un Degrassi ou ça a pas duré longtemps. Le mec est arrivé, il survolait tout le monde. C'est-à-dire que dans le Muay Thai,
la crème du jiu-jitsu.
Ah ouais, il est arrivé, il a fait. Je vais quand même aller voir comment je peux défoncer les autres. Et en fait, il s'est fait mettre au sol. Et une fois qu'il était au sol, c'était fini. Hein. Ça a été coup de coude dans la tronche pendant 3 minutes. Et au bout d'un moment, il a fait je suis mort, quoi. Donc j'arrête. Donc oui, en fait, quel que soit l'art martial de toute façon que vous pratiquez, rares sont ceux qui maîtrisent l'ensemble du panel, et c'est pour ça que les gens d'ailleurs qui font entre autres du jujitsu ou genre de choses ont un avantage assez incroyable par rapport à d'autres, parce que ils ont des techniques au sol, ils ont des techniques en l'air et ils ont des techniques debout. Donc c'est vrai que c'est un art martial qui est très complet, par exemple.
Et d'ailleurs, c'est quoi ton rapport au film d'arts martiaux? Parce que c'est vrai que quand on pratique un art martial, on voit différemment les films d'arts martiaux, parce que on voit là où en fait un acteur maîtrise ou un acteur apprend l'art martial pour le film. Enfin, on voit un peu tout le bluff du cinéma. C'est quoi, en fait, ton rapport? Est-ce que tu le vois de suite quand tu vas voir un film? Tu dis, ah ouais, bon, cet acteur, en fait, il sait pas se battre, mais oh bah... bon...
Alors là, je pense que Sébastien sera entièrement d'accord avec moi. Quelqu'un qui a pas une bonne position, tu le vois direct. Tu peux pas, mais c'est comme quelqu'un qui, je sais pas, qui est dans l'informatique, qui commence à regarder le code d'un mec qui est en train de pirater un truc avec du basique. Tu fais non les gars, pardon, mais le donc et d'ailleurs c'est des fois. Ça te nique un film ou une série. À l'époque où je regardais le ce qu'a donné les Defenders sur Netflix, donc avec avec Daredevil, avec Iron Fist, j'en passais des meilleurs. T'as un Daredevil où ils ont bossé le truc, les chorés sont bluffantes, tu vois qu'il y a vraiment du boulot derrière. Et tu vois d'ailleurs Iron Fist où le mec, clairement, je pense qu'il a peut-être fait un peu de tai chi dans sa vie. Et c'est pas une critique, hein. C'est pas du tout une critique, mais tu ne crois pas une seule seconde que ce mec soit capable de donner un coup de poing sans se péter la main. C'est impossible. C'est donc forcément, quand t'es dedans et qui t'est présenté comme le mec ultime, c'est difficile de rentrer dans le truc. Mais après, c'est difficile de rentrer dans des films que j'aime bien. Tu vois, j'adorais L'Arme Fatale ou ce genre de choses, mais Mel Gibson n'a jamais fait de d'arts martiaux de sa vie. Et ça se voit quand il est remplacé par des doublures, ça se voit toute cette partie-là. Donc effectivement, quand tu le vois dans le quatrième rencontrer Jet Li, tu te dis, mais comment ils vont plier ce mec-là? Après, c'est la magie du cinéma. Tu mets ton cerveau un peu de côté et puis...
Je suis assez crédule là-dessus. Il y a le côté, je te rejoins assez sur le côté vraiment amateur qui essaie de faire croire que c'est un professionnel. Donc ça, tu le vois et c'est plutôt mal fait. Et puis après, t'as quand même le côté du mec qui sait se battre, qui sait donner un coup de pied. Et t'as envie de dire, t'es un peu plus, entre guillemets, t'acceptes beaucoup plus de choses comme il n'y a pas de garde. Parce qu'on est là pour la magie du cinéma, on est là pour accepter de prendre un coup de pied. Et
ah oui. les Marvel sont excellents pour
mais
ça.
Non, mais quand plus mainstream que ça, tu prends tous les Van Damme, tu prends tous les Scott Adkins qu'on voit en ce moment où il y a des tournois de combat où les mecs ils se font passer ça pour un combat crédible, mais en fait jamais un combat se passera comme ça. Et d'ailleurs, je trouve pour le coup, mais c'est cinématographique et ça rend bien parce que les mecs ont bossé la choré et on accepte qu'un coup de pied aille au visage alors que le mec avait 20 fois le temps de se préparer pour boucler le truc. Mais
Les films qui m'avaient bluffé là-dessus, alors tu peux y trouver des critiques, mais qui ont su garder un ton cinématographique, mais qui ont crédibilisé certains trucs que nous on a appris, par exemple, tu prends les Jason Bourne, les combats ils sont assez bluffants parce que oui, c'est pas des vrais combats. Il y a des moments, tu vois, de toute façon, t'es obligé un peu d'écarter la main parce que sinon, la caméra, elle voit plus le visage de l'acteur. Peut-être les gens ne vont pas comprendre l'action parce qu'il faut savoir que quand on fait des techniques au corps à corps, par le biais on prend le karaté par exemple, on en parlait. Quand on est sur les coups de genoux, sur les coups de coude par exemple, c'est des techniques que tu vois pas venir. Ça va très très vite. C'est difficile de rendre une scène agréable pour quelqu'un si jamais effectivement t'as deux mecs qui sont vraiment au corps à corps dans un tout petit espace et il y en a qui savent très bien le faire. C'est dans Danny the Dog, la scène des toilettes, elle est exceptionnelle cette scène. Que ce soit en tant que pratiquant ou en tant que cinéphile, cette scène est parfaite. Danny the Dog est parfait sous plein d'aspects. Après, il y a des trucs, c'est totalement irréel. Tu vois les câbles partout, tu vois j'attaquerai le film sous un autre angle. Mais cette scène-là, elle est incroyable.
Pareil, Seb, toi, parce que c'est vrai, on n'en a jamais parlé. Enfin, on en parle dans notre podcast, mais on n'est jamais rentré dans le vif du sujet. Et j'en profite que tu sois là et que tu pratiques aussi. Quand tu regardes un film de d'arts martiaux, comment tu l'appréhendes, en fait?
En fait, tout va dépendre de comment le réalisateur tient sa caméra. Pendant très longtemps, en fait, j'ai pas su le formaliser, arriver à comprendre pourquoi, en fait, une scène marchait ou marchait pas. Et c'est vrai qu'on en a déjà discuté et les auditeurs l'ont entendu parce que c'est à ce moment-là que j'en ai parlé, c'est qu'on a parlé de Blood and Bone avec Michael J. White. J'ai regardé une interview de Michael J. White qui justement explique l'art et la manière de filmer une scène d'action et qui explique que justement, c'est important de bien poser sa caméra, de bien filmer, d'accepter des fois de faire confiance au combattant qui a l'œil un peu plus et pas de cutter toutes les 5 minutes. Et on a fait cet exemple-là d'un bon film bien filmé avec un bon pratiquant et qui va rendre bien. Et des fois, on peut aussi avoir un film bien filmé avec un mauvais pratiquement, mais il est tellement bien filmé que du coup, on arrive à y croire. Et inversement, tu peux avoir des très bons pratiquants. Je reprends l'exemple de Virtual Kickboxing avec un mec comme Billy Blanks. Billy Blanks est un très bon combattant. Il sait se battre.
Excellent.
Mais
excellent.
Il est très mal filmé. C'est très mal filmé.
Entièrement d'accord.
Et c'est très mal monté. On va couper à des moments où on n'aurait pas besoin de couper la scène parce qu'on veut faire un effet de style. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça que moi, quand tu me demandes comment j'appréhende un film, bah, j'ai besoin qu'il soit bien filmé. Et c'est pour ça que j'aime tout le cinéma de Isaac Florentine et Scott Adkins, parce que Scott Adkins, il ouvre sa gueule, il demande à ce que ce soit bien filmé, et généralement, ses combats sont bien filmés, parce que le mec n'accepte pas que son image de combattant soit écornée. Et ce mec-là sait se battre. Est-ce que les combats sont réalistes? Je m'en fous un peu, en fait, je t'avouerai. Quand on me dit « Ouais, mais c'est pas réaliste, dans la vraie vie, ça serait pas comme ça. » Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis là pour venir voir un film. Je suis là pour en venir prendre plein la tronche. Les mecs qui veulent rendre un combat réaliste au cinéma, je suis désolé, c'est chiant, c'est saccadé, c'est pas propre et ça donne pas envie d'être vu. Et je trouve que depuis quelques années qu'on laisse un peu plus la place et que, alors c'est bien et pas bien, mais qu'on ait de plus en plus de cascadeurs qui prennent la main sur la caméra et sur la direction de combat et qui sont des vrais mecs reconnus, on pense notamment au réalisateur John Wick, etc. Je suis désolé, ça a une autre gueule. Le très moyen, on en a déjà parlé dans le podcast, le très moyen des shifts avec avec Jamie Foxx. Le film est pas bon.
Oui.
Mais c'est JJ Perry qui est un ancien metteur de casque qui filme le truc. Le film ne vaut que pour les 15 minutes avec Scott Adkins qui défouraille à tout va.
C'est génial. C'est mais d'ailleurs super si bien vous filmé. Voulez pas voir le film. Si vous ne voulez pas
regardez
voir
juste
le film,
cette
voyez
scène.
Au moins cette scène.
Voilà, ça vaut. Voilà, et c'est aujourd'hui.
Je suis entièrement de ton avis. Et pour aller dans ton sens, il y a deux trucs qui me viennent. Le premier, qui est un film d'ailleurs en termes d'arts martiaux que j'aime beaucoup, qui est Le baiser mortel du dragon, où il y a une scène qui est très très simple. Hein. Il y a un moment donné, Jet Li il met un Uramawa Shigeri en fait à un policier et le mec va le dingue. Et c'est juste le coup de pied est très beau. Et en fait, la scène, tu la voit d'un autre angle dans le making-of et il est sans exagération au moins à un mètre du gars. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen qu'il le touche. Juste, la scène est très, très bien tournée. Et c'est ça que je veux exprimer. Je pense qu'effectivement, là, je te rejoins complètement. Moi, je n'ai pas besoin que la scène soit crédible. Je veux qu'on m'emmène dans le truc. Je veux que je n'ai pas à penser qu'elle ne le soit pas. Et pour aller au bout de ce que je pense, et une fois de plus, je vais complètement dans ton sens, on avait un conflit. Alors, j'ai pratiqué, pareil, l'aïkido un long moment. Et mon prof d'aïkido et moi, on avait des goûts radicalement en termes de cinéma. Lui, ce qu'il voulait, c'est que ce soit réel. Donc, il a adoré des films comme On Back, par exemple, où les mecs se mettent des vrais coups dans la tronche. Et moi, les films comme On Back, je respecte les cascadeurs, je respecte que ça a été fait, mais moi, de voir des mecs avec des grosses perruques et des casques pour être sûr de ne pas avoir mal quand tu leur mets des coups de coude dans le truc, bah, ça me sort du truc constamment. J'ai pas besoin que les mecs se fassent mal pour m'emmener voir le truc. J'ai pas besoin que ce soit réel. Moi, j'ai pas besoin qu'Iron Man existe pour de vrai. Ce que je veux, c'est que quand j'y sois, j'y crois. Et pour y croire, il faut que ce soit bien filmé, il faut que ce soit bien monté. Tu parlais du rythme, mais c'est exactement ça. Ce qui a d'ailleurs sauvé un film comme Bloodsport, a priori, ça a été l'œil de Van Damme là-dessus.
Oui,
ouais. Et apparemment, c'est une rumeur qui a l'air assez
vrai.
Solide. Bon, après, ouais. Chacun inventera sa légende, mais le fait est que on est passé d'un direct tout VHS à un vrai film, et on peut trouver des critiques à Bloodsport aujourd'hui parce qu'il a vieilli, mais ce film, il tient toujours la route sous plein d'aspects. Et les scènes sont bluffantes, que ce soit... Alors, je répète, remis dans le contexte, hein, c'est pas du cinéma d'aujourd'hui.
Non,
mais,
non.
Mais remis dans le contexte, entre le montage, l'angle et la musique qui joue évidemment son rôle derrière, ça passe très bien.
Complètement
c'est
d'accord.
C'est, clair.
Bah, c'est un de mes films que j'ai arrêté de compter les fois où je l'ai vu. Maintenant, avec un œil de pratiquant un peu plus aguerri, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de figurants qui n'étaient pas des pratiquants, et tu le vois, parce qu'ils savent pas envoyer un coup de pied. Il y a deux, trois pratiquants qui tiennent la route dans l'eau, et bon, le film est quand même dû essentiellement
à... Peut-être un petit peu plus, ouais. Mais
Ouais, ou alors ils sont très mal chorégraphiés. C'est peut-être ça aussi le problème.
C'est-à-dire que tu sens que c'est que au niveau de la réalisation, ils s'attendaient pas à ce que ce film ait tant d'ampleur.
Oui.
Et c'est peut-être ce qui a manqué.
Non, non, mais c'est, en fait, moi, ce que j'aime, en tout cas, dans un film d'arts martiaux, c'est un mec qui s'est envoyé un coup de pied. Moi, je suis très friand des coups de pied. Moi, c'est un truc, même à titre perso, j'en envoie beaucoup. J'aime assez ça et je m'entraîne souvent tout seul sur ma terrasse et ma femme des fois comme moi mais qu'est-ce que tu fais encore là? Oh rien, je tente des trucs.
Je danse.
Voilà, donc
je suis un grand fan de Michael Jackson.
Mais c'est des trucs que j'aime beaucoup moi, un acteur qui sait donner des coups de pied et qui sait être aérien, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans le podcast, le côté aérien d'un coup de pied, tu as l'impression qu'il est suspendu dans le temps là, c'est pour ça que j'aime beaucoup toute cette bon ils sont plus très nouveaux maintenant mais cette nouvelle vague d'acteurs qu'on a eu après Van Damme. Que sont les Scott Adkins, que sont les Michael J. White, ouais. Il y en a plein d'autres, hein, j'en oublie là comme ça parce qu'on en parle sur le feu, mais c'est des mecs qui ont su aussi dire non mais attends, moi je veux que tu me filmes comme ça et pas comme ça, et c'est ce qui fait la différence entre un bon film de martiaux et un mauvais.
Même des gens qui sont pas connus pour être pratiquants, tu prends Chris Evans qui a fait beaucoup de ses cascades lui-même, sur certains coups de pied il est assez bluffant, hein. Ouais. Il a un très très bon jeu de hanche et je pense que quand il tape il doit faire mal, il est assez bluffant, hein.
Ouais, alors après j'ai un peu de je me suis pas mal renseigné sur le côté Marvel et j'ai l'impression quand même qu'ils sont malgré tout quand même beaucoup doublés. Je suis pas convaincu qu'ils fassent vraiment ces cascades.
Ouais, parce qu'il y a les assurances.
Il y a du doublage. Il y a du doublage, hein, mais
tu vois le dernier, là, Tyler Rake, je
parlais vraiment de Chris Evans là particulièrement parce que lui il a insisté sur certains trucs, mais oui, de toute façon il y a beaucoup de doublage, puis aujourd'hui le deep face permet de faire tellement
mais ouais
de
c'est
choses.
Ça et ouais. Tu quand tu vois qu'un mec j'ai lu l'info et j'ai halluciné, il y a une scène de plan séquence dans Tyler Rake dans le deuxième Tyler Rake qui est dans la prison, pour ceux qui l'ont vu, ça parle, qui est assez folle, où il est à main nue, il se bat contre une centaine de prisonniers, elle est juste dingue. Et en fait, bah, on le voit dedans, c'est très bien fait, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est lui qui le fait, mais c'est pas lui. Et sur ce film-là, ouais, j'ai lu qu'il avait quatre cascadeurs pour Chris Hemsworth sur ce film.
D'accord.
Pour plein d'autres choses, pour plein de rôles différents, pour plein de trucs. Donc,
je savais pas.
Il s'est beaucoup concentré sur l'acting, sur le truc. Moi, il est bon dans ce film, je trouve. Et on y croit parce que, comme tu dis, la magie du cinéma fait qu'aujourd'hui, maintenant, ben, la technologie fait que tu te dis, ah, c'est lui. Mais en fait, non, c'est pas lui sur beaucoup de scènes.
Puis la scène, elle est effectivement assez bluffante, hein, parce que
c'est un plan séquence. Ils l'ont dit. C'est un plan séquence de fou et de malade. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Et, c'est là où c'est il y a encore quelques mecs qui font leur propre scène de combat. Je sais que sur je suis en train de réfléchir à un où je me dis c'est lui qui est sur ces scènes-là, ça me revient pas. Un acteur français, Alban Lenoir, pour le coup, c'est lui qui fait ses propres cascades.
D'ailleurs, c'est un véritable pratiquant aussi. Donc c'est pareil, Alban, il a fait plein de trucs différents, il a fait de la boxe, il a fait du kickboxing, il a cumulé pas mal de
je pense qu'il a fait un peu aussi de Krav Maga, des trucs comme ça parce que
de toute façon ça même dans sa démarche, ça se voit. Sait quand il donne un coup de poing, il sait ce qui voilà, il y a le poing est bien placé, il y a pas de problème.
Ouais. Et c'est juste pour un dernier truc, parce que c'est un truc que j'ai appris récemment et je comprenais pas et j'ai eu une révélation à ce moment-là. Et ça va peut-être te parler, toi, TMDJC, sur ce truc-là, c'est que tu as plein de films où, en fait, quand ils font un coup de pied retourné, moi, j'aime bien voir un coup de pied retourné à la Van Damme, c'est-à-dire qu'il vient taper avec la plante du pied, donc le dessous du pied. Et il y a pas mal de coups de pied retournés, typiquement Chuck Norris, qui envoie des coups de pied avec le dessus du pied, en circulaire. Il fait un coup de pied retourné. Et je me dis, bah merde, il sait pas faire des coups de pied comme on voit au cinéma, pourquoi il fait ça? Et j'ai appris récemment, en fait, c'est que, moi, j'ai toujours vu que Chuck Norris faisait du karaté, un peu kickboxing, ben c'était vrai et pas vrai à la fois. Parce qu'en fait, c'est un pratiquant de tang-soo-do. Et le tang-soo-do, c'est le karaté coréen. Et pour avoir vu récemment un reportage et un documentaire là-dessus par un youtubeur un peu spécialisé des arts martiaux, ben ils font leurs coups de pied comme ça. Et j'ai eu une révélation parce qu'en fait, il y a plein de films que j'ai vus avec des acteurs qui donnent des coups de pied comme ça, et ça vient du tang-soo-do. Et je me dis, purée, ben c'est pour ça que ces mecs-là font ça. Ils donnent un vrai coup de pied. Mais c'est juste qu'en fait, bah, c'est leur art martial qui fait qu'ils ont ce coup de pied qui se fait comme ça. Et voilà, ça m'a ouvert plein de trucs.
Parce qu'on parlait des termes, là tu citais le Uramawashigiri, il y en a plein qui le pratiquent, tu parlais de la plante du pied, mais il y en a énormément qui le font avec le talon. Ce qui donne encore un autre mouvement.
Et un autre nom.
Le talon, quand tu le fais en hourra, je crois qu'il garde le même nom.
Il n'y a pas Toby qui rentre dans l'eau ou non, c'est pas Toby, non.
Toby, c'est le saut. C'est quand tu quand tu fais un Toby, tu sautes. De, en tout cas, de mes, si mes souvenirs ne sont pas.
Ouais, je lâche. Mais mon japonais en karaté est un peu rouillé.
Mais pour le mien aussi. Alors je mais Toby, le Toby Maigeri, par exemple, je me souviens que c'était vraiment le
sauté, ouais.
Le Maigeri sauté qui a un coup de pied que j'adore, moi, que j'adorais placer aussi. Et le, quand
il est sympa,
enchaînes,
hein,
les Maigeri, le... bah, c'est-à-dire que quand tu jambes, Maigeri jambe droite, Maigeri jambe gauche, et puis tu sautes et t'as ce double, le mec il dit ok, ça va être quelle jambe cette fois. Ça, c'est vrai que c'est, j'aime bien déstabiliser. Ça, c'est un truc ou faire croire que tu es en train de faire une garde ouverte parce que t'es pas bon et qu'en fait finalement tu fais mine de balancer la main arrière alors que c'est la main avant qui part. Ça, c'est un peu traître.
Je vais vous donner
aussi
un petit secret de combat, moi, que j'aime bien. Et parce qu'on parle un peu combat. C'est désolé, Jazz, hein, cet épisode part un peu dans tous les sens, mais.
Ah non, mais moi, ça m'intéresse. Ah non, et puis ça m'a intéressé.
Moi, je suis gaucher.
J'espère que c'est digeste, par contre, parce que on n'est pas discipliné.
De faire un peu de méthodo. Moi, je suis quelqu'un de gaucher. Donc, en fait, je suis gaucher, mais avec une garde de droitier. Donc, c'est-à-dire que ma jambe forte, c'est ma jambe de devant. Et ce qui fait qu'en combat, je perturbe un peu mes adversaires, parce que je suis pas trop mauvais de ma jambe gauche. Je surprends pas mal de gens parce que j'arrive à faire beaucoup de techniques jambe avant, et notamment des maigeri assez explosifs, mais aussi beaucoup de hura mawashi, donc le coup de pied circulaire qu'on vient taper avec la plante, et le mawashigeri, c'est le coup de pied qu'on vient taper avec le dessus du pied, qui est aussi un coup de pied circulaire. Et ça, je le fais de la jambe avant. Donc souvent, ça surprend les adversaires parce que justement, ils s'attendent à ce que je sois un droitier, mais en fait, je suis un gaucher. Et on a beaucoup plus de rapidité en frappant jambe avant que jambe arrière parce qu'il y a beaucoup moins de distance à couvrir pour aller toucher l'adversaire et frapper l'adversaire. Donc voilà, ça, c'est mon petit...
Je précise dans ce qu'est en train de dire Sébastien que quand vous êtes en plein combat, effectivement, il va y avoir un choix qui est attaquer jambe avant ou jambe arrière. Et là, dans ce que Sébastien est en train de dire, ça peut sembler logique de dire bah oui, autant attaquer de la jambe avant, c'est la plus proche de l'adversaire. Mais il faut savoir que très souvent, suivant ce que vous êtes en train de faire, vous êtes potentiellement sur votre jambe avant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même tout un travail de changement d'équilibre, et c'est des choses qui, ça, peuvent être vues par l'adversaire. Donc ça demande à avoir une sérieuse confiance dans ce qu'on fait, et surtout ce jeu de rapidité dont tu parlais tout à l'heure, parce que tu vas devoir justement nuancer ton assiette de manière à pouvoir balancer la jambe. Mais si la jambe part effectivement et que c'est pas vu, bah, comme tu l'as dit, la distance à couvrir elle est moindre, et des fois tu es même dans l'adversaire, c'est-à-dire que tu va obliger l'adversaire à bouger si jamais il veut pas que ça fasse très très mal. Et c'est vrai que c'est le genre de truc que j'aime bien aussi. Mais jouer sur les distances, de toute façon, intellectuellement, c'est génial. C'est génial. Alors attention, parce que là, on vous dit...
Vas-y.
Juste pour terminer, là on vous dit ça, bah oui, tu te dis bah oui, on fait ça, et du coup le type en face, il va devoir réagir. Mais en fait, dans la réalité, c'est que bah, les deux essaye de faire ça. Donc, c'est pas juste une petite promenade de santé en disant, alors, qu'est-ce que je vais lui placer? Non, le type en face, il veut faire pareil. Donc, je rappelle que c'est un combat. Parce que quand on le dit comme ça, ça peut se dire, ah ouais, mais en fait, c'est pas mal comme technique. Mais la technique dépend pas que de vous, mais aussi de la personne qui va la recevoir.
Pour raccrocher un peu sur les valeurs du karaté, puisque c'est un peu la thématique, je trouve qu'une des grosses forces du karaté, alors on va me dire, oui, bon, on a ça aussi dans le kung-fu, on a ça aussi dans tous les sports de combat. Je trouve qu'une des grandes forces du karaté, c'est quand même le déplacement. Et c'est vrai qu'un karatéka, on le voit, on le repère, parce que déjà, il a cette capacité-là à se mettre à une bonne distance, et à une capacité aussi à réduire de manière très rapide la distance. Et je trouve ce qui est hyper intéressant quand tu commences un petit peu à travailler un peu les coups de poing, les coups de pied, les blocages et compagnie, c'est aussi travailler les déplacements. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que rien qu'en faisant soit un demi-pas, soit un pas chassé sur le côté, enfin, etc., il y a une manière en fait de bouger qui est vraiment très intéressante et qui a cette explosivité que il n'y a pas beaucoup de sports de combat à l'avoir en fait, parce qu'en fait, comme dans le côté tournoi, j'ai envie de dire compétition, on n'a pas de risque entre guillemets de se prendre une grosse patate et de manger un KO, parce qu'il n'y a pas de KO en karaté traditionnel. Alors certainement qu'en karaté contact ou karaté full contact, comme il y a en ce moment, qui est en train d'émerger pas mal, vous voyez peut-être ça sur les plateformes, en karaté traditionnel, Shotokan, Wada Ryu, comme on est en compétition, c'est de la touche, donc il n'y a pas de risque de prendre trop de KO. Donc on a cette capacité-là aujourd'hui à travailler beaucoup l'explosivité sur du déplacement rapide, presque instantané. Et souvent, quand moi je m'amuse avec des partenaires, parce que j'ai aussi fait un peu de kickboxing et de muay thai j'ai utilisé mes bases d'explosivité et souvent, ben, on surprend beaucoup les adversaires qui s'attendent pas à ce qu'on arrive aussi vite sur eux. Et c'est limite, ils sont, alors ça se voit pas à l'écran, mais ça les désarçonne complètement parce que sur du Muay Thai kickboxing, on est quand même vachement plus lourd sur ses positions, beaucoup plus dans l'attente, pour faire du low kick et compagnie. Et voilà. Mais alors, c'est...
Pour avoir fait comme toi, pour avoir navigué dans le kickboxing aussi, dans le Muay Thai, le kickboxing et karaté, c'est deux sports qui ont beaucoup de mal à cohabiter parce que dès que je me retrouvais en club, on me disait « putain, monte ta garde ouais. » et dès que je me retrouvais en karaté, on disait « putain, mais baisse ta garde !» Et ça, c'était une horreur. Et le Muay Thai, je me suis fait latter les tibias, mais un truc... moi, je pense que je suis pas arrivé dans le bon club et je suis pas resté très longtemps parce qu'en fait, j'étais devenu un sac de frappe et c'est super désagréable.
Ah ouais, c'est désagréable.
Moi, j'avais pas l'impression de progresser et à chaque fois, les mecs, ils disaient, bah, il fait du Muay Thai, bah, il fait du Muay Thai. Donc, c'est bon, on y va. Bah, attends, j'apprends là. Laisse-moi juste comprendre comment ça marche.
Ça peut être punitif le Muay Thai. Un jour, on en parlera aussi.
Eh ben, écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission. Déjà, c'était vraiment instructif. Et puis, en plus, deux pratiquants de karaté, ça fait plaisir. Moi j'étais un peu à part parce que moi, je faisais du wushu, donc
très bien, ouais, le wushu
c'était un peu plus calme.
Ce qu'on peut préciser avant de terminer sur le côté vraiment le karaté est en perte de vitesse en ce moment parce que justement il y a l'émergence de tous ces nouveaux sports de combat que sont le oui. MMA, kickboxing, Muay Thai qui sont très très populaires. Ça reste un art martial qui a de belles valeurs, je tiens à le préciser. Moi c'est pour ça que je veux le reprendre cette année pour vraiment atteindre le goal ultime qui est la ceinture, même si ça ne veut absolument rien dire, ces titres, c'est purement personnel. Mais il y a ce système de ceinture qui est vraiment hyper intéressant, où on part de la ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Donc ça, c'est pour que les gens voient un peu le système de ceinture. Donc il y a ce côté un peu comme dans un jeu de rôle, on prend un niveau à chaque fois, donc ce côté un peu achievement qui est plutôt sympa. Et ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, ben, vu l'émergence de ça, ils ont été obligés aussi un petit peu de moderniser un peu les cours. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les cours à mon époque, c'était, des fois, on pouvait passer une heure à faire ce qu'on appelle des kions. Les kions, c'est, vous met un bout de tatami. Donc, le tatami, en fait, c'est la surface sur laquelle vous pratiquez. Et vous faites des allers-retours de technique. Donc, des allers-retours de coups de poing. Des allers-retours de blocage.
C'est très japonais, en fait.
Voilà. Et c'est chiant. Il faut se le dire. Mais, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, je n'aurais pas ma technique de poing comme elle est aujourd'hui. J'aurais pas ma technique de jambe comme elle est aujourd'hui. Parce que, et c'est là-dessus que je veux insister, ce sont des bons arts martiaux pour apprendre à mettre un coup de poing correctement, un coup de pied correctement. Parce que si j'ai un gros reproche à faire à tous ces sports de combat qu'il y a actuellement, et c'est un reproche que j'ai fait souvent à mon prof de kickboxing, Muay Thai que j'avais, je lui dis, mais putain, on pourrait pas faire un cours à comment donner un coup de pied, comment donner un coup de poing. Je lui dis, c'est un basique, mais aujourd'hui, t'es en train de former des gars à faire des enchaînements de coups de poing, ils savent pas donner un coup de poing, ils savent pas donner un coup de pied. Donc déjà, d'une, ils risquent de se blesser eux, déjà premièrement parce qu'ils ont des très mauvaises positions et ils peuvent aussi blesser l'adversaire parce qu'ils ont aucune maîtrise de coup. Je vois le nombre de mecs qui ne savent pas, quand on donne un coup de pied aujourd'hui, que ce soit circulaire, plutôt circulaire, ils n'arrivent pas à lever la jambe, mais souvent ça vient d'un problème du pied d'appui qu'ils oublient de pivoter. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'ouvrez pas votre pied arrière, votre jambe, vous la levez pas. Vous avez beau être le mec le plus souple du monde, c'est très compliqué. Et ça, aujourd'hui, les gens ne savent pas parce qu'on ne leur a jamais appris. Donc ça, aujourd'hui, c'est un peu ce reproche-là parce que j'ai l'impression que... Travail de hanche aussi. Voilà, on pourrait passer beaucoup de temps sur ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui...
Pour moi, est la base en plus. Donc,
c'est ça, exactement. Toute la puissance vient de la hanche. De toute façon, ça, il n'y a pas photo. C'est un bon coup de hanche.
Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, j'ai pratiqué en faisant effectivement des lignes. Et c'est vrai que quand vous faites des lignes de coups de pied, des lignes de coups de poing, c'est pas le truc le plus sexy. Surtout si tu as à un moment donné envie de combattre un peu mais au même titre que quand vous faites quand vous échauffez, faire des pompes c'est pas rigolo, faire des abdos c'est pas rigolo, faut être clair, mais il y a un moment donné en fait faut que la machine fonctionne et ça s'apprend si les pratiquants qui ont appris comme ça sont aussi si bons, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il y a, tu disais tout à l'heure quelque chose que je trouve très juste, c'est savoir juste donner un coup de poing. Je suis en train de chercher son nom qui me revient pas, mais il y a un grand maître japonais qui humblement dit une fois j'ai donné un vrai coup de poing. Et là, tu dis, ok, le mec, il a tous les dindes du monde, il a explosé tout le monde, et il dit qu'une fois, il a réussi à donner un coup de poing. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu percutes que donner un vrai bon coup de poing ou un vrai bon coup de pied, bah, même toi, quand t'as l'habitude, en fait, il y a des moments où tu dis, putain, là, je l'ai vachement bien réussi. Et, ouais. Et ça t'arrive, mais tous les trois ans, où tu te dis, alors que tu fais des coups de pied à la chaîne, ce qui fait que avoir le geste juste, et si je dois faire une comparaison qui peut paraître bizarre, mais prenez les danseurs ou les danseuses de danse classique. S'ils sont aussi bons, c'est parce qu'ils ont répété leurs mouvements, mais des centaines de milliers de fois.
Au même titre qu'un basketteur qui tire au panier. Exactement.
Mais pareil. Il y a un moment donné, t'es obligé. En fait, la mémoire du corps, elle s'appelle comme ça parce qu'on parle de mémoire du corps. C'est aussi basique que ça. Donc oui, malheureusement, si jamais vous avez envie de pratiquer correctement, bah, ne faites pas cette économie-là. Et pour aller dans ton sens où tu disais, bah oui, peut-être le karaté est en perte de vitesse. Il y a plein de gens, à l'instar d'ailleurs de beaucoup de régimes miracles ou de manières de gagner de l'argent ultra rapide, etc. On vous promet plein de trucs un peu sexy, mais le fait est que le karaté a quelque chose de très solide dans ses appuis, que c'est un art qui est efficace et que quelqu'un qui va devoir se retrouver à pratiquer en dehors de son club, c'est-à-dire malheureusement devoir se défendre ou ce genre de choses, les gens qui savent réellement se battre, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des gens qui vont jouer sur leur carrure, il y en a qui vont vous faire peur, qui vont crier très fort, mais quand vous en arrivez en fait à devoir malheureusement défendre votre peau ou défendre des gens qui sont autour de vous, ça peut arriver, bah mine de rien, quand la personne dit ah, lui dans ses yeux ça se voit qu'il a pas peur et qu'il sait ce qu'il fait, le karaté vaut pas moins qu'un autre art martial, c'est juste qu'on vous fait miroiter des choses extraordinaires. Alors après, si vous souhaitez devenir un militaire, un combattant, etc., bah, y a d'autres sports qui vont vous amener des trucs que vous amènera pas le karaté, ça c'est certain. Mais dans la vie de tous les jours, oui, je pense que c'est un art qui est très solide.
Ouais, et puis moi, clairement, pour boucler la boucle sur comment tu as introduit ça, j'ai été un peu aussi introduit au karaté pour un peu les mêmes origines que toi. Et clairement, je trouve que c'est un... Alors on peut le dire aussi pareil de plein d'arts martiaux, mais moi, ça m'a permis, j'étais un enfant très nerveux étant plus jeune, et ça m'a permis beaucoup de me canaliser, de canaliser l'énergie, ouais. Parce que ça apprend aussi à canaliser les mouvements, et surtout à prendre confiance en soi, prendre confiance en son corps, de ses capacités. Et comme tu le dis, donner un coup de poing, ouais, ça s'apprend. Et c'est pas un coup de poing de forain, vous serez peut-être surpris, mais réfléchissez, le coup de poing, il tourne avant de le donner. Donc pourquoi? Ben, y a plein de choses qui rentrent en compte.
Ah, les mystères. Après, il faudra mettre le doigt dans l'engrenage.
Voilà. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'en tout cas, ils arrivent maintenant un peu plus à équilibrer les ateliers, les différents types de travaux que vous pouvez avoir dans une séance, parce qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ont besoin un peu de moderniser un peu leur cours, et que Jean-Michel, cinquième dan de karaté, avec une bedaine énorme, qui continue à donner des cours, mais qui s'entraîne plus lui-même. Voilà, faut évoluer malheureusement et.
Ouais, non, mais faut être cohérent. Moi, c'est pour ça qu'il y a des moments où on dit mais pourquoi tu te fais pas prof? Je sais pas, parce que je suis pas assez bon pour être prof, parce que entre la pédagogie et le fait que, enfin, moi je considère qu'un prof doit être parfait quoi qu'il se passe.
Exactement.
Et moi, il y a plein de choses sur lesquelles je ne le suis pas. Et voilà, donc c'est. Ça c'est un truc sur lequel je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un moment donné, il faut savoir accrocher quand c'est plus le moment.
Exactement. Voilà, Jazz, désolé, on a digressé.
Non, pas du tout, c'était super intéressant et je pense que ça va vraiment faire plaisir aux auditeurs.
J'espère qu'on a été clair en tout cas. On est parti un peu dans tous les sens.
Bah oui, non, mais c'est
moi, c'est le seul truc qui m'effraie. J'espère juste que ce soit pas indigeste. On s'est un peu lâché avec Seb. On n'a pas été très, très disciplinés.
C'était très bien. Moi, je gobais vos paroles et ça m'a même donné envie de faire du karaté pour vous dire.
Oh bah.
Mais,
alors là.
Mais, champagne.
Voilà. Non, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette.
Je te le dis, pour avoir fait deux stages de Wushu dans ma vie, tu aurais des avantages. C'est-à-dire que il y a certaines choses. Alors, et ce sera des positions différentes, des choses différentes, mais
bien sûr, ouais.
Rien que dans le mouvement de jambes, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de points communs entre le Wushu et le karaté, vraiment.
Ah oui, ça je sais, ouais. Eh bien écoutez, monsieur TMDJC, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Ah, alors ça va devenir beaucoup plus facile aujourd'hui parce que étant donné que la plupart des réseaux sociaux me font de plus en plus chier, notamment merci beaucoup Elon Musk avec ton X, principalement sur mon site tmdjc.com où vous allez retrouver voilà toutes mes productions, y compris les endroits où j'interviens parce que je fais de la publicité à tous les podcasts qui m'accueillent. Donc on retrouve des jolies pages où c'est une porte d'entrée pour découvrir ces podcasts. Et puis il y a aussi les quelques réseaux sociaux sur lesquels je me balade, mais c'est vrai qu'en ce moment j'y suis pour les raisons citées un peu moins.
Bah très bien. Et bah écoute, le site MDJC, allez-y.
On mettra les liens dans la description de toute façon.
Ouais, oui, tout à fait. Vous êtes fantastique. Vous allez vous éclater. Voilà. Vous aimez la musique, vous écoutez Périphérique. Voilà. Vous aimez un peu les anecdotes ou autres. C'est informel. Enfin bref, vous piochez un peu, vous allez kiffer.
Cet homme fait trop de choses.
Mon cher Seb.
Ouais.
On se retrouve pour une prochaine émission.
Bien sûr, avec grand plaisir. Fidèle au poste.
Bien sûr. Voilà. N'oubliez pas, 5 étoiles sur vos plateformes de podcast pour qu'on soit maximum référencé. On vous fait des bisous. À très bientôt. Salut.
Salut.
Des bisous tout le monde.